RCF.
Ils sont tous très concentrés pour le 18-19 régional présenté ce soir par Alexis Claudretz. C'est parti.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine régional en Champagne-Ardenne avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, de RCF France-Ardenne. Ce soir, notre invité Fil Rouge, il était le grand invité ce matin de RCF France-Ardenne, c'est le maire de Reims et président du Grand Reims, Arnaud Robinet, que l'on retrouvera dans quelques minutes dans la première partie d'émission et qui nous accompagnera tout au long de la deuxième partie d'émission après le journal régional où on reviendra sur les différents mouvements sociaux de la journée, notamment la mobilisation des agriculteurs avec de la distribution de lait gratuite qui a eu lieu à différents péages et notamment au péage de Tessy près de Reims. Nous serons avec Adrien Lefebvre qui est président de l'APLI, l'association des producteurs laitiers indépendants et qui est administrateur de la marque Fair France. Nous serons également dans ce journal avec Vincent Mahu qui est directeur d'école à Charleville-Mézières, qui est syndicaliste SNUIPP. C'est son syndicat, voilà, tout à fait. Et puis nous serons avec Gérard-Marie Henry, ça c'est pas l'intérieur du journal, c'est dans quelques secondes, pour la question d'économie. Gérard-Marie, de quoi parlera-t-on ?
On va parler avion, on va parler chanson, on va parler économie.
Eh bien, on vous retrouve dans quelques instants pour en parler. Le temps de saluer Fabrice, dont vous avez entendu la voix qui est à la mise en onde. De saluer Sacha, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
On vous retrouve tout à l'heure avec la page météo.
C'est ça.
Bon, vous êtes prêts ? Vous êtes un petit peu moins stressé qu'hier, tout va bien ?
Oui, moins stressé.
Bon, on espère que ça sera aussi bien. Vous connaissez aussi sa voix, c'est Mélissa Tavares. Elle nous accompagne, elle, pour un petit peu plus longtemps que Sacha, puisqu'elle va rester au moins un mois dans nos locaux. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Bah oui, très bien.
Bon, depuis que Sacha est là, vous êtes un petit peu au chômage technique, fini la Miss Météo.
Bah, je suis tranquille, je me repose.
Bon, vous rassurez-vous, on l'a fait quand même un petit peu travailler, notamment elle vous prépare des petites émissions, ça va être pépite. 18h12 sur les ondes de RCF Reims-Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Gérard-Marie Henry est avec nous. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
On parle économie, on parle chanson, on parle un petit peu de tout finalement. Et si la meilleure ambassadrice de l'industrie française était une chanteuse que vous admirez, Taylor Swift ?
Oui, alors on a des choses assez sympas à raconter sur elle. En fait, elle fait beaucoup de voyages. Vous savez qu'elle fait des tournées assez extraordinaires, qu'elle a gagné énormément d'argent. Faut pas être jaloux. Et en fait, pour pouvoir assurer tous ces trajets, eh bien, elle a depuis plusieurs années des avions à réaction.
Des avions.
Des avions, oui.
Elle en a deux.
Elle en a deux, toujours deux. Elle en a revendu un autre, elle en a racheté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une concurrence mondiale pour ces jets d'affaires. C'est ce qu'on appelle ces avions. On les appelle comme ça. Des avions qui ont 10, 15, à peu près places, avec en général une chambre, une cuisine, enfin des choses qui permettent de faire des voyages assez longs.
C'est déjà du bel avion.
Oui, c'est l'avion qui, neuf, vaut 40, 50 millions de dollars. 40, 50 millions d'euros. Alors, Taylor les a pas achetés neufs, enfin, il y a un marché d'occasion, hein, comme pour les voitures, et elle s'en sert de façon extrêmement importante. Et
juste un mot, Gérard-Marie-Henri, oui sur le marché de l'occasion, un avion qui vaut 50 millions d'euros neufs, ça peut valoir combien ?
Bah, ça diminue de moitié, un peu comme une voiture d'occasion. Hein. Vous avez une voiture à 40 000, au bout de deux ans, elle vaut 20 000 sur le marché.
Bon, plutôt une bonne affaire à l'échelle de Taylor Swift.
Oui, tout à fait, une bonne affaire, donc, puisqu'elle elle gère son entreprise de façon assez extraordinaire. Il faut dire qu'elle avait des parents qui étaient déjà gestionnaires. Mais par exemple, pour faire sa tournée, donc elle se balade dans ses avions d'assaut, mais en plus, elle a toute une équipe de transporteurs, de camionneurs, etc. Et quand elle n'est pas en tournée, elle loue le matériel qui lui sert à faire ses énormes édifices sonores, etc. Et alors donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a choisi français. Donc elle a choisi Dassault Aviation qui produit des jets d'affaires depuis à peu près 25 ans, qu'on a vendu entre 2500 et 3000 et qui a des concurrents qui sont des concurrents internationaux, surtout des concurrents implantés sur l'Amérique.
Est-ce qu'on sait pourquoi Taylor Swift a fait le choix de la France avec Dassault et notamment le Falcon ?
Alors le Falcon
qui est aussi le jet privé du président par exemple.
Bah oui, tout le monde a des Falcons, donc les
pas moi.
Non, pas toi, Alexis.
Fabrice non plus, a priori.
Donc pourquoi elle a choisi ? Ben, certains disent qu'elle les a choisis, ces Falcons, parce que ce sont des triréacteurs. En fait, généralement, les concurrents comme Gulfstream, comme Beechcraft, comme Cessna, comme Embraer, comme Bombardier, voilà, je vous ai cité les noms des cinq concurrents canadiens, américains et brésiliens de Dassault Aviation, en général, ont des biréacteurs. Et avoir un troisième réacteur, quand vous traversez l'Atlantique ou vous allez au-dessus du Pacifique, ben, c'est un petit peu réconfortant, parce parce que vous dites, s'il y en a un qui tombe en panne, il en reste encore deux. Et donc, elle a peut-être choisi le matériel français pour ces raisons-là. Elle l'a peut-être choisi aussi pour la qualité de fabrication, pour la cellule intérieure, etc., les aménagements, enfin, et peut-être le prix également.
Ça ne peut être qu'une bonne publicité pour l'industrie française, Gérard Marie.
Ah, c'est une très très bonne publicité, hein, puisque on le voit maintenant, Dassault, le cours de Dassault remonte. Hein, Dassault est une entreprise qui est cotée en bourse. Elle ne fait pas que des avions d'affaires, elle fait aussi du matériel militaire. Vous avez peut-être un petit peu entendu parler des Rafales, qui sont donc les avions de chasse que produit Dassault. Mais là, on a, grâce à cette publicité de Taylor Swift, on a le cours de Dassault Aviation qui remonte. L'action vaut à peu près en ce moment 152 euros.
Et comment on réagit du côté des Américains? On se dit peut-être qu'elle aurait pu investir chez nous, on l'aurait peut-être préféré. Comment ça
se
passe?
Oui, alors dans les articles américains, effectivement, à chaque fois, ils disent, mais comment ça se fait? On a aussi des constructeurs de jets d'affaires. Mais en fait, comme ils savent qu'elle est quand même très attentive à la gestion de sa fortune, ils se disent qu'elle a sans doute raison, qu'elle a choisi les meilleurs appareils, et donc ça revient encore à faire de la publicité pour Dassault Aviation. Et ce qui est intéressant, oui, si je termine. Hein,
vous avez le temps.
C'est que cette chanteuse, en fait, est vraiment adorée par un public assez important. Et lors des élections présidentielles de 2020, elle avait dit aux jeunes, bah, vous devriez vous inscrire sur les listes électorales. Elle n'avait pas dit pour quel candidat il fallait voter, mais elle les avait incités à s'inscrire et tout de suite.
À s'engager en politique.
Oui, enfin, à avoir une carte pour pouvoir voter, pour pouvoir participer à la démocratie. Et il y avait eu des dizaines de milliers de jeunes Américains qui l'avait écouté. Et pour les élections présidentielles de cette année, qui vont être des élections assez contestées entre le président sortant Joe Biden et sans aucun doute l'ancien président Donald Trump, les démocrates, le parti de Joe Biden, aimeraient bien que Taylor Swift dise « il faut soutenir le vieux Sleepy Joe, il faut l'aider un peu, etc. » Pour l'instant, elle ne s'engage pas, mais on peut imaginer que dans le courant de l'année, elle va peut-être laisser passer quelques paroles de ses chansons qui laisserait entendre qu'elle vote pour Joe Biden.
Donc finalement, il y a tout un stratagème, toute une stratégie qui est mise en place, Gérard Marion.
Toute une stratégie avec effectivement les supporters de Trump qui critiquent beaucoup, puisqu'en fait, elle profite également du fait qu'elle a maintenant un ami qui est assez sportif, qui va dans des matchs.
On en a parlé d'ailleurs.
On en avait parlé.
En baseball.
Et qui est
En football américain.
Et donc qui est assez connu. Et les supporters de Trump disent qu'il y a magouille, que l'équipe de Kelsey, celui qui est le copain de Taylor, va gagner parce que en fait on voudrait bien que Taylor et Kelsey gagnent. Enfin, ils essayent de
que ça soit un peu le couple iconique des États-Unis.
Absolument. Et mais en racontant qu'ils sont en train de tricher, enfin qu'il y a des arbitres peut-être qui laissent passer des fautes, je ne sais pas, je connais pas très bien le jeu. Mais donc on a toute une critique hein, de cet environnement de Taylor Swift qui vole sur des avions français.
Avec le Eratour, Taylor Swift, évidemment, est très connu à travers le monde entier. On n'en la présente plus, évidemment, Gérard-Marie Henry. Vous le disiez en préparant cette chronique, son jet, son Falcon de chez Dassault, il est bien connu aussi. C'est le N898TS. J'ai une question qui va peut-être devoir vous briser le cœur, Gérard-Marie Henry. Mais qui est la plus connue, Taylor Swift ou l'avion Falcon de chez Dassault?
Les deux, parce qu'en fait, cet avion-là, c'est l'immatriculation que vous venez de donner, en fait, fait référence à la date de naissance de Taylor Swift. Elle est née en 1989, fait référence au nombre de singles qui étaient numéro 1 quand elle a acheté l'avion, enfin, et se termine par TS qui évidemment sont les initiales de Taylor Swift.
Vous avez étudié la question de près, Gérard-Marie Henry, on vous sent très fan.
Oui, je trouve que c'est intéressant ce mélange entre économie, musique, pop music et puis une aviation française.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un concert qui se profile pour vous? Non, c'est que pour vos petits-enfants à Londres.
Oui, eux, ils sont londoniens, ils vont la voir à Londres et moi, je n'ai pas de place pour Paris, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont acheté puisque le concert va être rempli complètement.
Bon, écoutez, Gérard-Marie Henry, vu la qualité de vos chroniques économiques, on va essayer de voir si RCF peut faire un geste et peut trouver des places pour le concert de Taylor Swift. Mais je ne m'engage à rien. Vous savez, les deniers sont comptés sur RCF, c'est bien normal. Et en plus, ce sont nos auditeurs, les premiers donateurs, et on les remercie pour cela. Merci, Gérard-Marie Henry, d'avoir été avec nous.
Merci, Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Toujours avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, Mélissa Tavares qui est à nos côtés. Mélissa, ça va toujours bien?
Bah, toujours nickel.
On espère aussi que pour nos auditeurs, tout va bien. Il est là également, Sacha, il est arrivé de bonne heure ce matin. Sacha, tu es arrivé à quelle heure à la radio ?
6h45.
Rassure nos auditeurs, on ne te l'a pas imposé, tu es venu de ton plein gré.
Oui, c'est ça.
Pourquoi tu es venu aussitôt ce matin à la radio ?
Je suis venu aussitôt parce qu'il y avait monsieur le maire et le président du Grand Reims qui étaient présents pour une interview. Et puis du coup, vu que je ne l'avais jamais vu, j'ai voulu le rencontrer et puis c'était l'occasion.
Voilà, une belle rencontre pour Sacha ce matin, vous l'avez compris. Et si Sacha a eu le droit à cette rencontre, vous aurez le droit aux paroles d'Arnaud Robinet, maire de Reims et président du Grand Reims, qui était l'invité grand format de la matinale RCF-RCF Reims-Ardennes ce jeudi. L'occasion de le retrouver avec parcimonie ce soir, au micro de Jean-Pierre Benoît notamment.
Arnaud Robinet, bonjour.
Bonjour.
Président du Grand Reims, vous connaissiez toutes les communes. Cette élection, quelle est votre réaction après cette élection ?
De l'émotion, je le dis, de l'émotion, et la confiance de mes collègues maires m'oblige bien évidemment à continuer le travail qui a été engagé par Catherine Vautrin et toute l'équipe, les 143 maires, puisque la Côte urbaine a 7 ans et que les élus locaux, quelle que soit leur mission, contribuaient à cette construction de ce territoire. Et puis derrière, montrer que la ville a besoin du rural, le rural a besoin de la ville, cette complémentarité indispensable qui fait cette spécificité de la communauté urbaine du Grand Reims. Je rappelle qu'il est la plus grande communauté urbaine rurale de France. Et donc moi je suis en tout cas plutôt, quand je dis plutôt, très heureux en tout cas de pouvoir mener cette mission. Des grands projets ont été lancés. Et ce que je souhaite, c'est vraiment marquer ma présidence avec la proximité, la réactivité. Vous savez, moi je suis un maire parmi les 143 maires de la communauté urbaine du Grand Reims. Je suis un maire qui parle au maire. Et je considère cette communauté urbaine, qui n'est pas une collectivité en tant que telle, mais qui est un établissement public de coopération intercommunale, comme une coopérative de communes et de maires, où on met en fait des moyens en commun, on mutualise pour rendre service et être plus efficace pour les communes et in fine donc pour nos concitoyens.
Une élection d'ailleurs qui s'est passée, j'allais dire un score, je ne dis pas à la soviétique, parce que je ne veux pas bien sûr revenir sur un passé quand même qui est quand même très lointain pour vous, puisque vous êtes un jeune maire. Tout de même, c'est une élection qui vraiment vous conforte dans la mission qui est la vôtre, parce que là il y a quand même une quasi-unanimité.
Oui, en tout cas, moi je tiens à rendre hommage à Charles Gossard, mon collègue maire de Fismes, parce que il était très bien d'ailleurs qu'il y ait un autre candidat. C'est la démocratie et on avait aussi deux conceptions différentes de la communauté urbaine. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les maires et la confiance des maires m'ont reconnu comme étant capable, bien évidemment, de présider cette communauté urbaine à côté, je le répète, à côté des 140 autres maires de la communauté urbaine du Grand Reims. Et puis vous savez, notre particularité, c'est que nous sommes très mutualisés. Entre la ville de Reims et le Grand Reims, c'est une administration commune, c'est un cabinet commun. Reims, c'est à peu près un peu plus de 180 000 habitants, sur une côte urbaine de un peu plus de 300 000 habitants. Donc il y a un poids de l'urbain qui est relativement important en termes de population. Les charges de centralité, bien évidemment, sont ici à Reims. Mais au-delà, vous savez, j'ai beau être le maire de Reims, moi je suis le président d'un territoire. Et c'est ce qui compte. Vraiment, c'est de travailler main dans la main avec l'ensemble de mes collègues maires.
D'ailleurs, on reproche parfois, même ici à l'Assemblée nationale, de voir que beaucoup d'élus députés ne sont plus responsables d'un exécutif ou responsables local enracinés. Et ça se ressent à l'Assemblée.
Oui, c'est vrai, quand on regarde les débats à l'Assemblée, c'est vrai que ce qui est donné comme image aux Français laisse à désirer. Et je ne crois pas que c'est de cette manière qu'on va réconcilier les Français avec la politique. Mais je tiens à préciser que dans notre département, et notamment sur le secteur du Grand Reims, nous avons des parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, présents. Et je compte sur eux également pour travailler avec eux, bien évidemment, dans l'intérêt de notre territoire.
Alors, dans votre entourage, évidemment, vous avez toujours une administration, des collaborateurs proches, des directeurs de cabinet vont arriver.
Oui, le directeur de cabinet a été recruté. Il prendra ses fonctions le 12 février prochain. Et je suis actuellement, et je vais commencer d'ailleurs dès aujourd'hui, en audition pour recruter notre futur directeur ou directrice générale des services. Mais la continuité, elle est là. Aujourd'hui, j'ai un directeur de cabinet par intérim, bien connu d'ailleurs des maires du Grand Reims, et puis également un directeur général des services par intérim, monsieur Jean-Pierre Auger. Donc il y a cette continuité et il n'y a pas, je dirais, de cassure dans l'action aussi bien de la ville de Reims que de la communauté urbaine.
Quel est votre sentiment sur cette mobilisation du monde agricole? On la ressent et il y a une certaine, j'allais dire, une certaine harmonie entre les Français et les agriculteurs. Ça fait partie un petit peu de la vie de tout le monde.
Moi, je fais partie des 85% de Français qui soutiennent nos agriculteurs. Qui plus est, ici, sur notre territoire, dans notre département, je rappelle, dans notre communauté urbaine, l'agriculture avec la viticulture sont les premières et la première économie de notre territoire. Les agriculteurs, c'est notre histoire. Et j'aime aussi parler de paysans. Je crois que c'est pas péjoratif. Ce sont des gens attachés à la terre, avec des valeurs, avec des traditions, et qui ont une mission première, c'est de nous nourrir. Et ils le font bien. Et je le dis, les agriculteurs sont aussi les premiers écologistes. Ils connaissent la terre, ils connaissent la nature. Et donc il est tout à fait normal que nous puissions les soutenir dans le combat qui est le leur, avoir des revenus décents, la reconnaissance qu'ils méritent. Mais je le dis également, vous savez, on entend beaucoup dire, oui, c'est l'Europe. Non, enfin, bien sûr que l'Europe et les décisions européennes ont des conséquences sur les agriculteurs et l'agriculture française, mais derrière, il y a aussi l'État, la France, qui parfois...
On rajoute peut-être un peu.
C'est ce que j'allais dire tout à fait, avec ces surréglementations. Et puis chacun, nous avons chacun notre rôle pour soutenir nos agriculteurs. Les élus locaux, et nous le faisons avec Véronique Marché à travers la caisse des écoles, c'est-à-dire la restauration scolaire, où nous nous approvisionnons localement. Et je le dis, parfois je préfère avoir des produits non bio, mais des produits locaux, que faire venir du bio d'Espagne ou d'Italie. Et donc, que ce soit un approvisionnement de viande, de légumes, de fruits, ce sont nos producteurs locaux. Et puis derrière... Au bout de la chaîne, il y a le consommateur. Et il faut aussi peut-être que l'on prenne conscience qu'il va falloir à un moment ou à un autre aussi changer notre mode de consommation, consommer plus local. Nous avons besoin de nos agriculteurs. Vraiment, vous savez, il y a des symboles en France. Et l'agriculture française est un étendard. Il faut la soutenir, peut-être réfléchir à faire évoluer cette agriculture. Mais en tout cas, c'est notre étendard. Nous sommes à côté de nos agriculteurs et j'ai eu l'occasion, mardi matin, d'aller à leur rencontre, notamment sur le rond-point de la Garenne.
Alors on suivra bien sûr, vous suivrez Arnaud Robinet, probablement de très près, les conclusions ou les travaux de la réunion d'aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, du Président de la République à Bruxelles et je ne doute pas que le Président va mettre toute son énergie pour... convaincre l'Europe, en tout cas, de cette nécessité d'agir et de réagir. Parce que, vous savez, on parle de l'agriculture française, mais ce mouvement, il a débuté dans d'autres pays européens et notamment en Allemagne. Donc, on le voit aujourd'hui, il y a un véritable sujet européen. Des décisions doivent être prises, mais je le dis aussi, il y a une responsabilité de l'État et donc également des élus locaux et des consommateurs.
Alors, on va revenir sur l'actualité locale pour changer un peu. Alexis, vous suivez, vous qui êtes très proche du sport, mais pas seulement, le rallye de Monte-Carlo historique. Là, vous êtes branché là-dessus, Alexis.
Effectivement, départ aujourd'hui, Arnaud Robinet, encore une fois, une très belle édition qui s'annonce avec 90 équipages au départ.
Oui, nous sommes toujours très heureux. C'est vrai que ça fait partie de ces événements sportifs et ces moments qui sont inscrits dans le calendrier de la vie de la Cité des Sacres. Très, très heureux d'accueillir nos amis monégasques, d'ailleurs, avec qui nous avons des liens très, très forts, avec l'Automobile Club de Monaco. Et puis, tous ces participants qui viennent, en tout cas, pourquoi Reims, c'est la ville où il y a le plus grand nombre de participants, en tout cas, au départ du rallye Monte-Carlo historique, parce que, en fait, c'est la reconnaissance de l'accueil que nous leur faisons, aussi bien sûr la ville, mais bien évidemment l'ensemble des habitants. Et puis ici, à Reims, on le sait, sur notre territoire, il y a une forte appétence, il y a un amour pour le sport automobile, de par notre histoire, bien évidemment. Et donc, c'est toujours une grande fête du sport automobile autour des voitures anciennes. Donc, je crois qu'on sera nombreux ce soir, place du Boulingrin, pour donner le départ.
Ce qui est impressionnant, c'est la longévité aussi où Reims reste inscrit justement pour donner le départ de cette course par rapport à d'autres villes, même des capitales européennes, qui n'arrivent pas à avoir cette durabilité.
C'est ce lien, vous savez, qui nous unit avec la Principauté et notamment avec l'Automobile Club de Monaco. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, nous étions une ville de concentration pour le rallye Monte-Carlo. Et les changements de réglementation de la Fédération internationale ont fait que il ne pouvait plus y avoir de ville de concentration. Et c'est vrai que sous le mandat de Jean Falala, avec Gabriel Nguyen, je crois d'ailleurs, il y avait eu cette possibilité d'accueillir le rallye Monte-Carlo historique. Donc un lien très fort et c'est toujours un moment très attendu par les passionnés de sport automobile.
Jean-Pierre, je vous pose la question, à quand un équipage pour vous ?
Pas encore vraiment, mais je suis en train de m'entraîner.
On l'espère bientôt au départ.
Ah, ça serait bien. J'ai vu que Jean-Claude Levray était pilote désormais.
Jean-Claude Levray est copilote.
Copilote.
Et il part avec son coéquipier. Enfin, voilà, c'est l'équipage. Ils ont gagné le Rallye Monte Carlo il y a quelques années. Enfin, voilà. Donc, c'est une belle aventure et je lui souhaite bonne route.
Arnaud Robinet, maire de Reims, président du Grand Reims, qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission après le journal régional qui démarre maintenant. Les titres de ce jeudi 1er février, le mouvement agricole s'est poursuivi aujourd'hui au rang des initiatives nouvelles. Le collectif Faire France qui a organisé une distribution de lait gratuite à travers toute la France. Adrien Lefebvre, président de l'appli, sera en ligne avec nous. Les enseignants aussi portent leurs revendications dans la rue ce jeudi. Vincent Mahus, syndicaliste FSU, SNUIPP, était dans les rues de Charleville-Mézières. Il reviendra sur cette journée de mobilisation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et on va commencer par évoquer la colère agricole. Les agriculteurs continuent de manifester. L'axe Reims-Charleville était particulièrement perturbé ce matin. Des tracteurs bloquaient les deux voies entre le Châtelet-sur-Retourne dans les Ardennes et Varmeryville dans la Marne. Dans le seul département des Ardennes, on a recensé jusqu'à 30 points de blocage ce matin où des grandes surfaces n'ont pu être approvisionnées. Par ailleurs, certains péages comme celui de Tessy près de Reims ont été le lieu de rendez-vous du collectif Faire France qui a distribué près de 10 000 litres de lait gratuitement aux consommateurs un peu partout en France. Aujourd'hui, Adrien Lefebvre, agriculteur dans les Ardennes, président de l'association des producteurs de lait indépendants et administrateur Faire France, est en ligne avec nous. Adrien Lefebvre, bonjour. Pourquoi avoir mené cette opération aujourd'hui avec le collectif Faire France ?
Bonjour Alexis. Alors pourquoi avoir fait cette action ? Tout simplement pour remercier le consommateur, parce que c'est vrai que ça fait 10 jours qu'il est souvent bloqué sur les routes, et comme vous venez de le dire, l'axe d'ailleurs Rethel est pas mal pris en ce moment. Mais ce qu'on voulait, c'était aussi donc le remercier et lui montrer aussi un peu une nouvelle voie à choisir, parce que en consommant des produits Faire France qu'on va trouver dans les magasins de la grande distribution, eh bien, on peut changer les choses, et c'est ça le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Loin des attentes finalement du gouvernement, qui sont malheureusement toujours un peu à côté de la plaque, ce qu'on voulait, c'était montrer un message aux consommateurs. Ici à Reims, comme ailleurs en France, on avait 6 points dans 6 départements où on a fait la même action et où on a distribué donc 10 000 litres de lait pour montrer aux consommateurs que s'ils changent ses habitudes de consommation, il peut clairement bien rémunérer les éleveurs et ça peut le faire aussi dans d'autres filières.
Adrien Lefebvre, pour ceux qui vous connaissent dans le département des Ardennes, est-ce que vous aviez emmené Justine sous le bras ?
Alors, pas que sous le bras, on avait emmené notre Justine, donc notre vache tricolore emblématique qui est déjà un peu connue et reconnue, parce que ça fait maintenant pratiquement 15 ans qu'on la balade à droite et à gauche. Et donc là, on l'avait sous le bras, mais on l'avait aussi au format réel. Et je crois que sur le barrage de Reims, il y avait 5 grandes Justines taille réelle, entourait un petit peu tout la gare de péage de Tessy et qui sont un petit peu le symbole aussi d'une agriculture française qu'on veut défendre et du savoir-faire aussi de nos producteurs qui doit être transmis, parce que c'est aussi un gros problème, la transmission des exploitations dans les années à venir. Et on veut envoyer avec aussi ce message, on veut envoyer un message fort auprès des jeunes générations, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les manifestations, que ce soit à droite ou à gauche, depuis 10 jours. Et ces jeunes-là, il faut savoir aussi qu'une initiative comme Faire France, dans le cas où ils sont producteurs de lait, elle est ouverte à eux et à tous les autres producteurs français. Et ça, c'est pas assez connu. Et je pense que la force du collectif, elle peut trouver des solutions pour tous, quoi.
Merci Adrien Lefebvre de nous avoir présenté le sens de votre action menée aujourd'hui avec le collectif Faire France. On vous dit à très bientôt. Les agriculteurs n'étaient pas les seuls à porter des revendications aujourd'hui. Les enseignants aussi étaient dans la rue ce jeudi. Salaire, conditions de travail, groupe de niveau. Les raisons de la grève de ce jeudi 1er février sont nombreuses. Témoignage à Châlons-en-Champagne de Christine et Karine, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
On attend une reconnaissance du métier de tout le personnel qui œuvre au sein des écoles, que ce soit les ASEM, les faisants fonction, les adjoints administratifs, les animateurs. On a un métier qui est très difficile, on est très sollicité et on n'a aucune reconnaissance de notre métier. Il y a eu un plan Ségur, on a été les grands oubliés du plan Ségur. Et nous, ce que nous voulons, c'est être un agent par classe à temps complet tout au long de la période scolaire, ce que nous ne sommes pas actuellement. Une reconnaissance de la spécificité de notre métier, ce que nous n'avons pas.
Alors, nos conditions de travail se sont vraiment dégradées depuis certaines années. Nous avons de plus en plus de tâches à effectuer, notamment sur le périscolaire, où nous avons un grand nombre d'enfants, des ATTE qui ne sont pas remplacés. Sur le temps scolaire, nous avons beaucoup plus de travail. Actuellement, nous faisons office d'AESH. La plupart des enfants en difficulté ne sont pas pris en charge par des ATTE. Ce sont les ATSEM qui devront faire le rôle d'AESH. Donc, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas formés pour ce genre de choses.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Près de 400 personnes ont manifesté dans les rues de Reims ce matin. Une petite cinquantaine du côté de Châlons-en-Champagne, Vincent Mahut, directeur d'école à Charleville-Mézières, syndicaliste FSU SNU IPP, étaient des manifestants dans les Ardennes. Vincent Mahut, bonjour. Quelles sont les revendications des enseignants?
Les revendications, on vient de les entendre un petit peu dans le témoignage précédent. Elles sont effectivement, comme vous l'avez dit, nombreuses. On était rassemblés ce matin devant l'inspection académique des Ardennes. On était environ 250 lors de cette grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et on pourrait regrouper les revendications en quatre grands points. Le premier, c'est un peu plus de respect pour notre profession avec les sorties récentes de la ministre et les grands coups de communication avec des choses à mettre en place, le choc des savoirs à la rentrée sans consulter la profession et puis dans une grande impréparation qui nous inquiète. La seconde, justement, c'est une meilleure prise en compte de l'inclusion des élèves en situation de handicap ou avec un profil particulier. On demande bien sûr plus d'AESH et que les enfants qui attendent parfois plus de 2 ans puissent avoir des places en établissement qui correspondent à leurs besoins, à leur handicap. La troisième, c'est la revalorisation des salaires. On aimerait avoir les mêmes salaires que les pays voisins, donc il faudrait pour ça augmenter tout de suite de 300 euros par mois. La quatrième, la plus importante, bien sûr, nous dénonçons les fermetures de 35 classes dans le département des Ardennes contre seulement 5 ouvertures, puis 2 créations hors classe. Donc ça fait au total 28 postes qui sont repris. On a au contraire besoin d'enseignants, de personnel spécialisé et de remplaçants.
Vincent Mahut, est-ce que vous êtes suffisamment entendu? Est-ce que vous l'avez été aujourd'hui? Ou est-ce que cette nouvelle mobilisation en appelle d'autres dans les jours, dans les semaines à venir? Pourquoi pas?
Nous avons été reçus ce midi même par la directrice académique qui semble nous avoir écoutés, mais guère entendus. Donc nous reviendrons à la charge lors du CDEN qui se tiendra mardi 6 à la préfecture. Et si ce n'est toujours pas le cas, des mobilisations sont envisagées dans toute la fonction publique à la mi-mars.
Eh bien, en tout cas, merci Vincent Mahut d'avoir été en direct avec nous depuis Charleville-Mézières et d'avoir fait le point sur les mobilisations enseignantes aujourd'hui, notamment dans les Ardennes à Charleville-Mézières. On vous dit à très bientôt peut-être, puisqu'on l'a bien entendu, il y aura de nouveaux mouvements. À bientôt Vincent Mahut.
À très bientôt.
Du 15 au 18 août 2024, il y aura le Cabaret Vert à Charleville-Mézières. L'éco-festival ardennais a révélé un nouveau groupe ce matin, The Libertines, un groupe punk rock dont est notamment membre le célèbre guitariste Pete Doherty. Une course, pas comme les autres. Pour la 26e fois en autant d'éditions, le rallye Monte Carlo historique sera au départ de Reims dans quelques minutes à 19h. 90 équipages sont sur le qui-vive près des Halles du Boulingrin pour tenter de rallier Monaco. Pour rappel, cette épreuve n'est pas une course de vitesse mais d'endurance. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve le local de l'étape Jean-Claude Levray, copilote de Pierre Bosse. Avant de refermer ce journal, place à la météo avec Sacha Delez, notre stagiaire à la rédaction. Rebonsoir Sacha.
Rebonsoir.
Quelles sont les tendances pour ce vendredi en Champagne-Ardenne?
Demain, le temps sera assez nuageux sur l'ensemble des départements. Dans la Marne, la matinée sera fraîche avec 4 degrés au maximum à Reims ainsi qu'à Épernay. Le temps sera plus frais du côté de Châlons-en-Champagne avec un maximum de 3 degrés. Dans les Ardennes, le temps sera froid comme à Rethel où il fera 1 degré au maximum dans la matinée. Et il en sera de même à Charleville-Mézières. Dans l'Aube, à 3, le thermomètre affichera 4 degrés en fin de matinée. Dans la Haute-Marne, le temps restera froid et stable avec 2 degrés au maximum toute la matinée à Saint-Dizier, tout comme à Chaumont. Dans l'après-midi, le temps se réchauffera dans la Marne. À Reims, il fera 8 degrés sur les thermomètres. Sur Épernay, la température ne dépassera pas les 7 degrés. Puis, à Châlons-en-Champagne, le temps restera froid dans l'après-midi avec 7 degrés au maximum. À Sedan, le temps sera un peu plus froid avec 6 degrés au maximum, comme à Vouziers. Dans l'Aube, à Troyes, le temps sera gris avec une température de 8 degrés au maximum. En Haute-Marne, le temps sera doux avec 7 degrés sur Chaumont et ses alentours, tout comme à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons les Théophanes. Ce sera aussi la Chandeleur, l'occasion de manger des bonnes crêpes.
Bon, bah on espère que vous aurez des crêpes au souper demain soir, pourquoi pas, Sacha. Vous, de votre côté, Mélissa, les crêpes, c'est déjà commandé ?
Bah, bien évidemment.
Voilà, voilà, c'est la Chandeleur, on mange des crêpes. Moi qui suis gourmand, c'est sûr que je vais manger des crêpes. Fabrice, je sais pas, chez vous, c'est vous qui faites la pâte à crêpes, Fabrice ? Allez, on veut lui donner le micro, on a un petit peu de temps ce soir.
Non, mais j'espérais que ce soit vous, mais enfin...
Bon, on peut s'arranger, je vais voir ce que je peux faire ce soir pour ramener le petit déjeuner demain matin, puisque ça ne vous échappera pas, sur RCF Reims-Ardennes, on sera en direct avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Vous aurez l'occasion de le réentendre dans le magazine régional demain soir. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Chose promise, chose due, et je ne parle pas encore des crêpes, Fabrice, pas tout de suite en tout cas. Dans cette deuxième partie d'émission, on retrouve de nouveau Arnaud Robinet, maire de Reims et président du Grand Reims, qui était l'invité de la matinale RCF Reims-Ardennes ce jeudi.
Arnaud Robinet, on revient parce qu'on n'en a pas, l'a pas évoqué, sur le Grand Reims. Il est déjà en route, beaucoup de projets, vous prenez le train déjà un petit peu en marche, donc les projets engagés vont se poursuivre. Les vice-présidents travaillent avec vous, il y a des équipes qui sont constituées, donc vous vous engagez dans une voie que vous allez suivre, probablement.
Nous sommes à mi-mandat. Il n'était pas question pour moi de révolutionner la gouvernance et l'exécutif du Grand Reims, et j'ai souhaité garder la même équipe de vice-président, mais également les membres du bureau. Alors, il y a eu quelques changements, puisque c'était des élections uninominales et chaque maire a pu s'exprimer. Mais globalement, voilà, l'architecture exécutive est la même. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands projets qui ont été lancés. Le projet de territoire voté à l'unanimité. Il y a également ce nouveau contrat en termes de transport en commun. Ça ne concerne plus 16 communes du Grand Reims, mais les 143 communes. Mais il va falloir accompagner cette
Grand Reims Mobilité. Hein,
Grand Reims Mobilité. Donc oui, des projets sont engagés. Nous allons donc continuer. Mais vous savez, je disais tout à l'heure que pour moi, le Grand Reims, c'était un peu une coopérative de maires et de communes. Et quand quelque chose ne va pas, c'est le maire que l'on va voir. J'ai toujours le maire et l'élu à portée de baffe, à portée d'engueulade. Et donc, il y a une proximité, une réactivité à améliorer dans l'action du Grand Reims. Je parle de la voirie. La voirie, c'est sous la responsabilité de François Mourat, vice-président en charge de la voirie. On le voit très bien, ce que demandent les maires, et moi je suis un maire et je le vois aussi, c'est plus de réactivité lorsqu'il y a un nid de poule pour le reboucher, la question également du changement d'ampoule, etc. Donc, nous avons commencé à travailler avec les équipes, comment mieux répondre aux communes, aux maires et donc aux citoyens. Donc oui, les grands projets vont continuer, il va y avoir un suivi bien évidemment, d'autres pourront voir le jour, mais aujourd'hui je veux vraiment marquer ma présidence avec l'équipe qui m'entoure autour de la proximité et de la réactivité, parce que c'est ce qu'attendent nos concitoyens.
Alors évidemment on va revenir sur l'actualité nationale parce qu'il y a actuellement des débats, il y a eu le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, Fernand Tavares que vous connaissez sans doute, qui vient régulièrement chez nous, chroniqueur, me disait hier en direct et me disait de transmettre en quelque sorte la question, il savait que Arnaud Robinet vous veniez, Arnaud, et il me disait mais il y a des nouveautés. Pour vous, c'en est pas une, à propos des élus locaux, à qui on risque, et c'est peut-être une chance, de confier des responsabilités nouvelles dans le domaine du logement, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine aussi de la sécurité des élus, puisqu'il y a parfois des élus qui sont attaqués là où ils sont. Ça vous plaît de, ça correspond finalement à des attentes qui sont les vôtres.
Bien évidemment, et le Premier ministre a annoncé une loi de décentralisation d'ici la fin de l'année, mais nous étions plusieurs, et notamment des maires de grandes villes, notamment dans la formation politique à laquelle j'appartiens, a demandé plus, pas d'autonomie, mais de responsabilité, notamment en termes de logement, que les maires puissent avoir aussi un regard sur l'attribution de logements sociaux. Qui plus dans une ville comme Reims, qui comporte 45% de logements sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle, alors le terme n'est pas très joli, mais c'est le terme qu'il disait, cette question de politique de peuplement dans nos quartiers. Et il faut bien évidemment, derrière, il faut que les maires puissent avoir un droit de regard et aussi un pouvoir décisionnel dans l'attribution des logements. Puis la question de la sécurité. Aujourd'hui, les polices municipales sont, la police municipale est la troisième force publique. Elle travaille en coordination, notamment ici à Reims, de manière parfaite avec la police nationale. Mais c'est vrai qu'il y a des compétences qu'elle n'a pas aujourd'hui. Et donc, quels sont encore une fois les élus qui sont en première ligne? Mais ce sont les maires. Donc, faisons confiance aux maires. Ils connaissent parfaitement leur territoire. Chaque territoire est différent, vous savez. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir aussi arrêter avec cette centralité, ce pouvoir jacobin, et faire confiance aux maires, de manière générale, aux élus locaux. Donc, ces annonces vont dans le bon sens.
Parmi les sujets qui préoccupent beaucoup l'opinion, et c'est bien sûr le logement, c'est la sécurité, c'est aussi la santé.
Oui.
Or, comme président de la Fédération hospitalière de France, vous prenez des positions très claires dans la défense des hôpitaux. Et alors, on pense au CHU à Reims, mais de tous les hôpitaux en France. Quel est votre diagnostic sur la situation du monde de l'hôpital aujourd'hui et du monde de la santé en général, sachant que votre interlocutrice, c'est quand même d'une certaine façon Catherine Vautrin, l'une des interlocutrices.
Non mais, bien évidemment, alors beaucoup vont penser que je vais avoir mes entrées au ministère. Mais
C'est peut-être un peu possible quand même.
C'est possible.
Parce que vous vous connaissez.
On se connaît très bien, mais je suis très clair. C'est pas parce que j'ai de l'amitié avec Catherine Vautrin, que nous nous connaissons depuis 10 ans, que je ne vais pas continuer à être offensif dans la mission qui est la mienne de défense du service public, et notamment celui de la santé. La situation, elle est inquiétante. Et j'avoue que j'ai été assez déçu du discours de politique générale dans ce domaine du Premier ministre, parce qu'en fait, il n'y a pas de vision de ce que doit être notre système de santé dans les années à venir. Nous, ce que nous demandons, c'est une loi de programmation. Qu'on donne une visibilité, une vision aux professionnels de santé, que ce soit les médecins libéraux, médecine de ville, que ce soit également pour le public. On se donne nos objectifs et quels sont les moyens. Et je le dis clairement, l'hôpital public ne demande pas de l'argent supplémentaire. Et elle demande plus d'efficience et on demande une réforme totale du système de santé, qu'on arrête à chaque fois, quels que soient les gouvernements, à avoir des réformes qui concernent uniquement l'hôpital, ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme, mais que ça concerne tout le monde. Parce que l'hôpital a besoin de la médecine de ville. La médecine de ville a besoin de l'hôpital. Et il y a des mesures simples à prendre, il y a une volonté politique à avoir, qu'on arrête aussi de voir la santé uniquement avec un prisme comptable. Et aujourd'hui, j'avoue que je reste sur ma faim. Donc je vais avoir l'occasion la semaine prochaine d'avoir un entretien officiel avec la ministre du Travail, des Solidarités et de la Santé, Catherine Vautrin. Je lui ai écrit, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit au Président de la République et à Bruno Le Maire à Bercy, parce que c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, pour leur faire comprendre de la situation du système de santé français, de l'hôpital public. Aujourd'hui, si on se base sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale voté en décembre, on demande à l'hôpital public en 2024 près de 500 millions d'euros d'économies. Qu'est-ce que l'on veut ? Supprimer des postes ? On voit la situation des urgences. Donc non, la situation est grave, je le dis à nos concitoyens. Et s'il faut se mobiliser, nous nous mobiliserons.
Ça veut dire aussi, sans doute, localement, vous pouvez faire des expériences, mais vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Revoir avec la médecine de ville, les médecins généralistes. On voit qu'on voit aux urgences, parfois pour des petits bobos le week-end, qui autrefois, mais c'est une autre génération, Arnaud, vous connaissez, donc il y a quelques années, on avait le médecin de famille qui venait le week-end.
Oui, mais
il y a beaucoup de choses peut-être à changer, à demander peut-être aux généralistes de s'impliquer davantage.
Les choses ont évolué, et moi je n'ai pas à juger cette évolution d'approche du travail. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les médecins généralistes, ils sont totalement mobilisés.
Et
moi,
ils sont surbookés.
Et moi, je ne veux pas, parce que je préside la Fédération hospitalière de France, donc les hôpitaux publics, moi, je ne m'oppose pas la médecine de ville à l'hôpital. Nous sommes tous dans le même bateau. Les médecins de ville, ils sont présents. Au CHU de Reims, nous avons la maison médicale de garde. C'est eux qui la tiennent, c'est eux qui la font fonctionner. Nous avons des médecins de ville qui participent à la permanence des soins. Et eux aussi sont en grande souffrance. Donc il faut bien évidemment le prendre en compte. Donc nous devons travailler main dans la main. Nous devons travailler ensemble parce que je le dis, bien évidemment, quand on s'engage dans une carrière médicale, même paramédicale, quel est l'objectif ? C'est la prise en charge du patient et garantir un accès aux soins à tous nos concitoyens, quel que soit le territoire. Et puis je pense également à ces évolutions nécessaires. Et là, on doit avoir des échanges, bien évidemment, entre le public et le privé, la médecine de ville notamment, sur des compétences, et je pense aux compétences des infirmières. En fait, il faut recréer du collectif territorial, avec bien évidemment, encore une fois, le médecin généraliste qui est la porte d'entrée, moi qui coordonne. Il faut travailler collectivement avec tous les professionnels.
Donc ça veut dire que sur ce sujet, Arnaud Robinet, vous avez dans vos bagages, dans vos cartons, dans vos valises, une vision, un projet, un programme qui pourrait non pas être vendu clé en main, mais quasi, qui pourrait être proposé pour rénover totalement le système.
Quasi, avec la Fédération Pierre de France, nous avons fait des propositions en termes de vision du système de santé, dans le cadre du développement durable également, parce que le système de santé a également des propositions et doit agir dans ce domaine. Et puis il y a un autre sujet, est-ce que l'on parle que du sanitaire ? C'est le sujet du grand âge. C'est un véritable défi qui nous attend. Nous sommes quasi au pied du mur. Comment prendre en charge et assurer une vie décente à nos aînés ? Là, c'est très transversal, bien évidemment. C'est la question de l'aménagement de nos villes, mais c'est surtout la prise en charge, notamment dans les établissements publics, les EHPAD, le maintien à domicile. Et nous demandons, et la ministre Aurore Berger s'y était engagée comme la première ministre Elisabeth Borne, une loi de programmation sur le grand âge, comme nous le demandons pour la santé. C'est indispensable. Aujourd'hui, il y a des EHPAD qui sont dans une situation catastrophique financièrement, qui n'ont quasi plus de trésorerie. Il faut investir également dans du bâtimentaire. Il y a les conditions de travail de celles et ceux qui y travaillent. Et là, encore une fois, je tire la sonnette d'alarme.
Mais vous dites que c'est une question d'argent et de finances. Et il n'y a quand même pas une baguette magique. Ça veut dire qu'il faut une réorganisation du système pour que des économies se fassent, pas au détriment du fonctionnement.
Alors, je le redis avec force, nous ne demandons pas plus d'argent. Pour cette année, oui, parce que, comme beaucoup, nous demandons que l'inflation soit prise en compte, et puis également les annonces du Ségur. Vous savez, l'État, ou le gouvernement précédent, avait annoncé le Ségur de la santé. Nous l'avons applaudi demain en termes de revalorisation salariale. Mais sauf que ce Ségur de la santé n'est pas intégralement financé. Donc il pèse sur le budget des hôpitaux qui ont vu leur déficit multiplié par deux en deux ans avec plus d'un milliard d'euros de déficit. Donc nous demandons à l'État cette prise en compte. Et c'est la même chose pour le privé. Vous savez, l'inflation, c'est 500 millions d'euros. Mais ensuite, nous ne demandons pas plus d'argent. Nous avons des propositions pour être plus efficients, pour faire des économies, non pas sur la prise en charge des patients, mais sur le fonctionnement tant tel d'un établissement. Quand je parle du développement durable, nous savons que si nous investissons notamment en termes de matière d'économie d'énergie sur la question de la consommation d'eau, c'est de l'investissement au temps zéro. In fine, ce sont des économies et nous avons de multiples exemples.
Et justement, Alexis, dans l'actualité, on va beaucoup parler du CHU.
Effectivement, notamment si on revient en local à Reims, la première partie du nouvel hôpital de Reims, c'est prévu pour le mois de mai, Arnaud Robinet ?
C'est prévu pour le mois de mai. Nous allons donc inaugurer cette phase 1, ce nouveau bâtiment très attendu par les professionnels de santé, mais également par les élus locaux et par les patients et les futurs patients. Un hôpital moderne. Et là, je suis objectif. Je reconnais que nous avons pu le faire aussi grâce à l'État, avec un investissement extrêmement important. En fait, nous sommes passés entre les gouttes parce que le projet était validé avant cette grande période d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux établissements ne peuvent pas mener leur restructuration ou la reconstruction de leur établissement parce que les prix ont explosé, parfois plus de 40%. Donc oui, nous sommes très, très impatients en tout cas d'inaugurer ce nouveau bâtiment. Ensuite, enclencher avec la phase 2 de ce nouveau projet du CHU de Reims et la phase 3 in fine, qui sera la démolition du bâtiment actuel, de la partie qu'on appelle le bâtiment Robert Debré. Et nous aurons un hôpital neuf et qui permettra d'accueillir dans les meilleures conditions nos concitoyens.
Vous souhaitez, Arnaud Robinet, et vous l'avez prouvé déjà depuis 2014, c'est vrai, une proximité avec les citoyens. D'ailleurs, c'est une demande récurrente. Les gens sont hors sol. C'est facile de critiquer le personnel politique en général. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude ambiante qui est liée aussi à l'actualité internationale, qui est liée au contexte. Il y a l'inflation. Est-ce que dans tout ça, vous avez... avec ce que vous soutenez dans le mouvement Horizon en particulier, une forme d'espérance que vous souhaitez conduire?
Oui, moi je suis de nature optimiste. Et c'est vrai que actuellement, on vit cette fracture sociétale, ces difficultés qui ne sont pas propres à la France. On a un contexte international qui est mouvant et qui évolue quasi de jour en jour. Il y a deux ans, qui aurait parlé de la guerre en Ukraine, du conflit entre Israël et le Hamas? Personne. Donc d'ici 2027, de l'eau va couler sous les ponts. Les choses peuvent évoluer. Mais je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, le vrai débat, c'est comment répondre aux défis de demain. Et ils sont nombreux, ces défis. J'en ai cité un, qui est celui du vieillissement de la population. Mais derrière, il y a le défi aussi de la prise en compte de l'immigration. Il y a le défi climatique. Moi, je veux qu'on arrête aussi de stigmatiser telle ou telle partie de la population française, de dire aux Français, vous êtes responsables de tout. Non, ensemble, nous pouvons porter de grands projets. Et nous vivons dans un pays magnifique, la France. C'est vrai, nous avons la chance de vivre en France avec un système de protection sociale qui est extrêmement important. Nous avons une vie culturelle importante, nous avons des équipements importants. Je suis bien conscient que nos citoyens souffrent et sont en précarité, voire en grande précarité. Mais c'est en allant de l'avant, en ayant cette volonté d'avancer, qu'on pourra répondre à tous ces défis. Alors, et qu'on puisse... bien, comme on le fait à Reims d'ailleurs et dans d'autres villes, bien évidemment, c'est voilà, amener une qualité de vie et surtout des perspectives à nos concitoyens.
Inquiétude des agriculteurs, inquiétude dans le domaine de l'hôpital, des infirmiers, des infirmières, inquiétude dans le domaine de l'école. Hier, nous avions en direct le recteur de l'Académie de Reims et aujourd'hui a lieu un mouvement social et des grèves à l'intérieur du système éducatif. Bon, on a eu le recteur hier qui avait beaucoup d'idées. C'est en train de craquer.
On a l'impression que ça craque de partout. Mais voilà, ne soyons pas simplement des observateurs, soyons des acteurs. L'éducation, c'est la base de la construction d'une société. Notre école, elle est là pour instruire. Je dis toujours, elle n'est pas là pour éduquer. L'éducation, c'est les parents qui doivent l'assumer. Mais l'école, c'est amener cette ouverture d'esprit, aller vers l'autre, c'est l'instruction. Et l'école, c'est le pilier fondamental de notre société. Donc oui.
Mettre un uniforme, peut-être, dans certains. Mais c'est pas obligatoire, mais il y a des essais qui vont avoir lieu à Reims. Mais
moi, je l'ai dit qu'à Reims, nous allons, ma volonté de l'expérimenter. Je ne sais pas quelle sera la conclusion. Mais pour une fois que l'État ne nous l'impose pas et nous dit, voilà, vous allez pouvoir l'expérimenter. Eh ben, expérimentons. Mais je ne le ferai pas sans l'avis du conseil d'école, c'est-à-dire les parents d'élèves et les enseignants. Mais je souhaite avoir 5 écoles sur différents secteurs de notre ville pour avoir un recul sur cette expérimentation.
Il reste une minute et je sais que Alexis, là, grand sportif, en une minute, on pense au stade de Reims, on part aux Jeux Olympiques. Il y a quand même, bon, en 2024, des sources d'espoir, Alexis.
Effectivement, Arnaud Robinet, que ce soit, comme le disait Jean-Pierre, le stade de Reims, mais aussi en 2024, on est obligé de mettre l'accent sur cette flamme olympique qui va traverser la ville de Reims.
Le 30 juin. Olympique. Ouais. Moi, je fais partie de ceux, j'en ai marre d'entendre des responsables politiques ou certains qui espèrent qu'une chose, c'est que ce soit un échec. Nous accueillons les Jeux Olympiques, c'est l'image de la France qui est en jeu, c'est montrer l'excellence française. On va accueillir le monde et notamment à Reims où les touristes seront nombreux et nous avons le plaisir d'accueillir la délégation, une grande partie de la délégation britannique. Et Reims va vivre au rythme des JO de cette année olympique durant toute l'année, aussi bien avec un prisme sportif mais également culturel. Donc oui, une grande grande année d'ailleurs la ville de Reims a acheté des places pour les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, et les services sont en train de regarder comment on va pouvoir identifier un certain nombre de bénéficiaires pour leur faire vivre cette grande aventure des JO 2024.
Arnaud Robinet, il nous reste quelques secondes, on n'aura pas le temps d'ouvrir d'autres pages de sport, on aurait pu aussi parler de la situation du Champagne Basket, etc. Une question sur le stade de Reims, quoi, que vous suivez comme tous les clubs locaux. Un pronostic, ils peuvent finir européens à la fin de la saison? Vous les voyez combien à la fin de la saison?
Je crois, moi, entre 5 ou 6. 5e ou 6e place, et on peut être européen. En tout cas, il y a cette volonté du club, des dirigeants, et on vient à un petit creux. Quand je dis pas un petit creux, on a quand même 8 titulaires qui ne sont plus là à cause des compétitions internationales. Bon, j'ai vu que notre capitaine va revenir puisque le Maroc a été éliminé par l'Afrique du Sud. Donc oui, voilà, et soyons nombreux contre Toulouse dimanche, et surtout montrons à nos amis lensois que nous allons accueillir bientôt que nous sommes ici à Reims.
Oui, oui, bien, on voit bien les pancartes. Merci Arnaud Robinet.
Merci beaucoup pour votre accueil et très belle
maire
journée à
Reims,
tous nos auditeurs.
Président du Grand Reims, merci Alexis, merci à tous.
Merci à vous Jean-Pierre. Effectivement, merci à vous Jean-Pierre, vous serez là avec nous demain matin, 7h en direct sur RCF Reims-Ardennes. On retrouvera Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, que vous entendrez également dans le magazine régional demain soir, 18h-19h. On sera là pour vous accompagner avec nos stagiaires à la rédaction. Bonne soirée Mélissa.
Bonne soirée à tous.
Bon, finalement on se met d'accord, on compte sur vous pour les crêpes demain.
Comment ça demain?
Ah. Non, bah, mais demain c'est la chandeleur.
J'ai pas accepté ça, hein, c'est à toi de faire.
Bon, très bien, on va voir ce qu'on va faire. Sacha, on compte sur vous pour les crêpes demain.
Oula, plutôt sur vous, hein, Alexis.
Ok, très bien. Bon, on a Lise qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Lise, les crêpes, tu veux bien nous en amener demain?
Je pense que j'aurai cours malheureusement.
Donc, bah voilà, Fabrice, on n'aura pas de crêpes demain. Nous, on vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Et tout de suite, c'est l'information nationale qui prend le relais.